Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?» Et aujourd'hui, nous consacrons notre émission au printemps arabe, et même au printemps au pluriel arabe avec un S. Mais c'est vrai que c'était il y a maintenant 10 ans que le jeune Tunisien Mohamed Bouazizi s'immolé par le feu à la suite d'une confiscation de ses marchandises. C'était le 4 janvier 2011 à Ben Arous qu'il est décédé, et s'ensuivait une série d'événements d'enchaînements politiques qui provoquaient des chutes de régime, des exils forcés, des révolutions. Et pour en parler avec nous, notre premier invité, c'est Ratar Abou Diab. Bonjour.
Bonjour, cher monsieur.
Vous êtes politologue franco-libanais, professeur à l'Université Paris-Sud et spécialiste de l'islam et du Moyen-Orient. Et vous disiez... avant même que ce printemps arabe ne débute en Tunisie, j'ai repris des propos que vous teniez à vos étudiants en 2011, fin 2010, début 2011, vous disiez que les peuples sont en colère à cause de la corruption et de la répression, et donc tout est possible à partir de là.
Exactement, ça a été plus ou moins prévu dans certains pays. Il y avait une impasse politique, en plus de tout ça, une répression permanente, une apparition, ou plutôt une stabilité apparente, pas une stabilité réelle, et il y avait les effets de la crise économique de 2008, et en plus de tout ça aussi, ces sociétés sont plutôt des sociétés jeunes. Les jeunes représentent plus ou moins une grande partie de la population arabe. Et il y avait un avenir sans perspective. Ces jeunes qui ont déclenché ces insurrections de la Tunisie à la Libye, l'Égypte, le Yémen, la Syrie et ailleurs, plutôt après le Liban, l'Algérie et aussi le Soudan, ils ont mené vraiment de révolte non idéologique pour le pain, pour la liberté, pour la dignité. Et après, on a confisqué plus ou moins. Il y a des forces idéologiques qui ont pris la commande. Il y a des forces contre-révolutionnaires. Et plus grave de tout ça, il y avait une sorte d'ingérence étrangère et un jeu des axes régionaux, un jeu de forces de statu quo qui voulait pas un changement à tout prix. Et il y avait au lieu du printemps arabe, pour certains, l'hiver arabe. L'histoire, c'est pas avec les opérations. On n'écrit pas l'histoire avec les appellations. En Europe, le printemps des peuples de 1648 n'a pas abouti d'une façon, 1848 n'a pas abouti directement. Et dans le monde arabe, je pense qu'on est toujours en gestation. La grande preuve, en Tunisie, il y a de la colère aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une révolte réinventée, non. Mais c'est la colère, car il y a un échec. Même ces pouvoirs issus de printemps arabe ne réussissent pas à une alternance économique et politique valide. Et pour cela, plus ou moins, on est toujours dans une situation insurrectionnelle, une situation de trouble, mais elle pourrait être quand même le prélude à une nouvelle situation.
Alors restons un instant sur la Tunisie, si vous le voulez bien. Les esprits, ce qui avait frappé beaucoup d'esprits à l'époque, et pas seulement d'ailleurs en Tunisie, mais dans le monde entier, c'est le 14 janvier 2011 avec la fuite du président Ben Ali, qui finalement pas forcément prévu, inattendu, et qui a semblé accélérer le processus et faire la démonstration que un peuple, en l'occurrence le peuple tunisien, pouvait réussir à ébranler un régime qui jusqu'alors semblait extrêmement solide et avec une mainmise, une emprise forte.
Il faut laisser les mots à l'histoire. Je pense que le peuple tunisien avait une expérience de lutte, une expérience constitutionnelle parmi les premiers pays qui ont établi de formes constitutionnelles. C'est la Tunisie, l'Égypte, puis le Liban et autres. La Tunisie, c'est le seul pays avec une laïcité modérée sous Bourguiba. La Tunisie a une société civile quelque part. Aussi les syndicats en Tunisie, surtout l'Union des travailleurs, a joué un rôle important dans ce mouvement. Et pour cela, le climat en Tunisie était beaucoup plus près. Et je pense à l'intérieur de l'État tunisien, il y a des gens qui ont poussé Ben Ali à partir. Il a perdu la couverture américaine. Il ne faut pas oublier tout ça. C'est-à-dire, sans un élément d'aide externe, le peuple à lui-même n'arrivait pas à faire le travail. Ce qui a manqué, par exemple, dans d'autres cas. Dans d'autres cas, là, on a eu l'impression que le printemps arabe s'arrêtait aux portes de Damas, car à Damas, contrairement au Caire, à Tripoli ou à Tunis, il n'y avait pas une certaine volonté internationale ou une acceptation internationale du changement, bien que la souffrance est beaucoup plus forte dans un pays comme la Syrie que c'était dans un pays comme la Tunisie de Ben Ali.
Alors, il y a eu d'abord effectivement la Tunisie, et puis il y a eu cet effet de contagion avec le voisin. Vous l'avez dit, il y avait eu la Libye auparavant, mais surtout l'Égypte, qui était aussi un autre grand pays de la région, qui semblait installé politiquement avec un régime aussi fort, un président Moubarak qui était là depuis des décennies. Et de la même manière que avec peut-être aussi d'autres éléments que vous nous expliquerez, mais de la même manière, on aboutit à un changement, à une transformation du régime et à l'homme fort du régime qui, d'un seul coup, part aussi, quitte le pays et s'enfuit devant les protestations et les manifestations.
Écoutez, si on va faire les bilans de ces mouvements, de ces mutations, de ces insurrection de cette tentative de changement, on peut parler d'une façon claire que le seul endroit où il y a encore une expérience à mener, c'est la Tunisie. Dans les autres pays, ce sont des autres cas de figure. En Libye, c'est une guerre régionale, internationale, un jeu sur le marché méridional de l'Europe qui met tous les équilibres en Méditerranée orientale en péril. En Égypte, surtout, je pense que les Américains ont commencé à demander au président Moubarak des changements depuis 2001, 2002. Il y avait un certain bras de fer caché entre l'Égypte et son grand allié américain. Et il y avait la surprise pour les autorités égyptiennes qui n'ont pas plier les bras devant la jeunesse ou devant l'insurrection comme on imaginait. Il y avait une sorte d'un recul tactique de la part du pouvoir égyptien. On a changé la couverture du président Moubarak, mais on a gardé le maximum de pouvoir entre les mains. Le passage des frères des musulmans à la tête du pouvoir a bouleversé aussi la donne. Ça donnait l'impression en Égypte, dans certains pays arabes, d'une couverture américaine, d'une arrivée de ces islamistes au pouvoir, sous aussi le titre d'une nouvelle stabilité, d'une nouvelle alliance avec l'Amérique, ce qui a poussé l'État profond égyptien à mener la contre-attaque et de reprendre le pouvoir en 2013. Et en Égypte, ça devenait comme ça les slogans de ces nouvelles autorités. Il vaut mieux l'État égyptien, cette persistance de l'État à une démocratie imposée ou à une situation catastrophique comme la situation libyenne ou syrienne. Donc, le jeu des nations d'un côté, la contre-révolution, l'implication idéologique, ce qui manquait surtout à ces révolte arabe, la culture démocratique des peuples, ce qui manquait surtout, c'est le programme réaliste et plus ou moins, il n'y avait pas les forces politiques capables de porter les rêves de la jeunesse arabe. Et pour cela, c'était plus ou moins, 10 ans après, un rendez-vous manqué, mais pas un rendez-vous finalement avorté.
Alors vous disiez, parce que j'ai repris ce que vous disiez à l'époque de ces transitions, quand il y a eu des changements de régime, quand le régime est tombé en Tunisie et puis ensuite l'Égypte, vous disiez ça sera plus compliqué en Égypte de stabiliser une démocratie à cause du fait religieux et de l'emprise de la religion qui est plus forte en Égypte qu'en Tunisie. Et donc vous annonciez quelque part que probablement la jeune démocratie tunisienne peut-être pourrait survivre au suffrage universel, alors que probablement l'Égypte serait déstabilisée et il y aurait un retour en arrière. Et finalement, c'est un peu ce qui s'est passé.
Oui, malheureusement, même avant la chute du régime égyptien, du régime de Moubarak, j'ai parlé, je me souviens, chez vos confrères à RFI, de la réalité des risques islamistes. Et malheureusement, on le voyait bien plus tard. Car enfin, si on prend l'expérience algérienne des années 90, on voyait bien quand même que le monde arabe était coincé entre soit les dictatures ou le despotisme d'un côté, ou une nouvelle aussi main forte des islamistes. Les choix n'étaient pas donc pour la véritable démocratie, et c'est ça qui a fait perdre les rêves de la transition en Égypte. Les frères musulmans ont promis à un moment donné qu'ils ne voulaient pas plus de 35% du Parlement. Ils ont promis de ne pas vouloir jamais prendre la présidence de l'Égypte. Ils n'ont pas tenu leur promesse. Ils voulaient prendre tout le pouvoir, ce qui a fait éclater cette occasion de changement en Égypte. Et une autre leçon à tirer, si on n'a pas moins de poids de religion et plus de poids de la citoyenneté, lorsque je parle de poids de religion, je ne parle pas à minimiser l'islam comme religion ou comme choix individuel entre Dieu et les gens, mais du point de vue politique, s'il n'y avait pas cette séparation comme c'était le cas lors de la Renaissance en Occident, on n'aura pas un projet de renaissance arabe. Le projet de renaissance arabe doit être un projet d'un état de droit, le plus important, l'état de droit qui respecte les droits des gens, qui respecte les chances d'égalité entre hommes et femmes. Il y a des critères donc de développement humain et avec tout ça, on arrive plutôt à dégager des sociétés démocratiques. On ne pourrait pas arriver tout d'un coup. C'est-à-dire le suffrage universel à lui seul n'est pas la route automatique et immédiate à la démocratie.
Et on l'a vu bien dans de nombreux pays où finalement, après avoir ébranlé les régimes, après avoir parfois obtenu des élections au suffrage universel comme en Égypte avec l'élection du président directement, les avancées démocratiques ne se sont pas installées dans la durée et effectivement on pourrait presque dire que quand on compare effectivement de l'Algérie à la Libye en passant par l'Égypte jusqu'à la Syrie et d'autres pays qui ont été touchés par ces mouvements dits du printemps arabe, que la seule expérience qui se poursuit, la seule expérience démocratique, c'est la Tunisie qui se trouve finalement bien isolée.
Et même cette expérience tunisienne, elle est fragile comme tout, compte tenu de cette absence d'un véritable dialogue politique. On a l'impression parfois qu'il y a un dialogue de sourds entre les forces politiques tunisiennes, qu'il y a une tentative cachée du parti d'al-Nahda de pouvoir d'être toujours le parti dominant, et tout ça ne contribue pas. Il n'y a pas un respect d'esprit, d'une alternance. Tout ça ne contribue pas à améliorer la situation, à faire un climat ambiant pour une véritable expérience démocratique. Je pense qu'il est impératif que les partis islamistes du monde arabe changent leur idéologie. C'est-à-dire, on ne peut pas demander de changer tout leur corpus idéologique, mais au moins de ne pas utiliser la démocratie pour tiller la démocratie, mais pour accepter les véritables alternances. Sans ces choix, et sans les, il y a aussi de laïcar éradicateur dans le monde arabe qui complique la tâche, qui veulent isoler toutes les autres composantes. S'il n'y avait pas un esprit un peu de l'acceptation de l'autre, de reconnaissance de l'autre, on n'arrive pas à établir de véritables bases démocratiques. Et pour cela, j'insiste sur le mot culture démocratique, culture de la reconnaissance de l'autre, moins de religion et plus de citoyens, sans et plus de rôle de la femme. Et sans tous ces éléments, on n'arrive pas à faire une promotion de la démocratie dans le monde arabe.
Ma dernière question, Khattar Aboudiab, ça sera pour justement parler des pays qui sont restés relativement à l'écart, en tout cas c'est à vous aussi de nous éclairer, de ce mouvement. On pense notamment à un pays comme le Maroc, ou aussi à la Turquie, ou aux pays même où les événements se sont accélérés, mais beaucoup plus tard, comme l'Algérie ou le Liban. Comment vous expliquez cette absence de mouvement en apparence, ou ces retards à l'allumage?
Oui, il y avait des retards, mais toute la zone est ébranlée quelque part, et elle va rester ébranlée. Le Maroc, c'est vrai que Mohamed VI, depuis son arrivée, il a fait beaucoup pour les Amaziques, pour la nouvelle code de la famille. Il y avait quand même une ouverture. C'est un parti islamiste modéré qui gouverne avec lui, qui est au gouvernement. Donc, au Maroc, il y a quand même, à travers les palais, des canaux d'expression, des canaux de normalisation. Donc, il y a un dialogue politique plus ou moins qui fonctionne. Je ne dis pas c'est l'idéal, mais c'est ça la raison qui a quand même limité la casse au Maroc et qui a permis la continuité. En Turquie, c'est une autre chose. La Turquie, c'est en dehors du monde arabe.
C'est en dehors, mais bon, c'est mais comme il y a eu un effet de contagion, on aurait pu penser...
Oui, la Turquie, comme l'Iran, ce sont des pays aussi avec la main forte. Et M. Erdogan, au contraire, il a profité du printemps arabe, il a profité des changements dans le monde arabe pour raviver son rêve impérialiste, le rêve impérialiste turc de l'Empire ottoman. Et même à l'intérieur de la Turquie, depuis ce qu'on parlait d'une tentative de coup d'État en 2016, il y a une tentation despotique inquiétante en Turquie contre tous les opposants, contre tous les gens qui disent non à Erdogan. La Turquie, c'est très inquiétant comme une dérive autoritaire dans le Moyen-Orient. L'Iran, parlons pas, c'est une démocratie de façade, démocratie sous l'égide des guides. C'est une histoire de mascarade. Il n'y a pas d'expérience. Dans le pays du Golfe, quand même, on a eu la normalisation avec Israël comme une réaction. C'est pas aussi une course contre la démocratisation, mais une tentative aussi de trouver d'autres moyens de changement. Quoi que l'on soit, j'insiste que ce mouvement lancé en 2010-2011 n'est pas fini, il est toujours en cours, ça prend beaucoup de temps, car enfin ce monde arabe ne pourrait pas être épargné d'un véritable changement sanitaire.
Eh bien, merci beaucoup, Khattar Aboudiab, politologue, spécialiste de l'islam et du Moyen-Orient, pour avoir répondu à nos questions à l'occasion bien de cette date anniversaire. Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'anniversaire, mais en tout cas, c'était il y a 10 ans, le début des événements en Tunisie, la chute du président Ben Ali après l'immolation de Mohamed Bouazizi. Et donc, on revient sur cet épisode de notre histoire récente. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de l'émission avec notre prochain invité. Merci beaucoup, Khattar Aboudiab, à bientôt.
Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission Et si on en parlait, la deuxième partie de l'émission, dans la deuxième partie de cette émission qui est consacrée eh bien, à ce qu'on a appelé le ou les printemps arabes, je reçois Naoufel Brahimi El-Mili. Bonjour. Oui, vous bonjour. Êtes politologue, spécialiste. Alors en particulier, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'Algérie, mais vous êtes spécialiste évidemment du monde musulman, du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Et on avait envie de vous entendre sur cette date, ma foi, que nous ne pouvons pas ignorer parce qu'elle a quand même marqué les esprits. Je rappelais tout à l'heure l'immolation de Mohamed Bouazizi, et puis quelques jours plus tard, la fuite du président Ben Ali le 14 janvier 2011, et puis ensuite une contagion qui s'est appelée printemps arabe. Alors est-ce que le mot, est-ce que ça vous convient cette expression, Naoufel Brahimi?
Non, c'est une expression. Tout d'abord, on a eu la révolution de Jasmin, mais dans ce que vous aviez dit, entre l'immolation de Bouazizi et le départ de Ben Ali de Tunis pour l'Arabie Saoudite, il s'est passé quelque chose qui est passé inaperçu, pas vraiment. Entre-temps, il y a l'imam Cheikh Al-Qaradawi sur Al-Jazeera qui a déclaré que Bouazizi était shahid. Or, il s'avère que dans l'islam, le suicide est condamné. Et je suis sûr que Cheikh Al-Qaradawi savait ça, mais le plus important, c'est de construire une narration, un storytelling. C'est ça qui s'est passé. Et là, bon, dans le livre que j'écris sur le printemps arabe, deux points, une manipulation, point d'interrogation, bon, le titre n'est pas de moi, c'est la main, quand je dis du Qatar, mais le Qatar était en situation de sous-traitance par rapport aux États-Unis. Et là, comme on est la veille du serment constitutionnel des nouveaux présidents, on voit cette continuité dans la politique étrangère américaine qui concerne le monde arabo-musulman. C'est-à-dire Bush fils, qui avait le projet Le Grand Moyen-Orient, qui n'a pas marché, notamment à cause de l'opposition de Hosni Moubarak, du président égyptien et autres. Et ensuite est venue l'administration Obama, qui a repris l'esprit de ce projet et le calé uniquement aux républiques en faisant sortir les monarchies du lot. Et aujourd'hui, ça serait bien de se poser la question, quelle va être la politique de Joe Biden président lorsqu'on sait quelle était la sienne, enfin presque la sienne, quand il était vice-président? C'est la question qui se pose.
Alors, c'est vrai que Khatar Abou Diab, dans la première partie de l'émission, dans les facteurs, on va dire, notamment de la chute du président Ben Ali et puis aussi du président Moubarak, mettait en avant effectivement l'intervention américaine, ou plutôt le lâchage par les Américains de ces régimes comme un élément je dirais déterminant de ces fuites ou de ces retraits, de ces mises en retrait un peu forcées, au-delà, dit-il, des mouvements populaires qui certes ont joué un peu le rôle de détonateur, mais qui n'étaient pas forcément déterminants au sens de la poursuite de l'histoire telle qu'elle s'est menée, c'est-à-dire des changements politiques relativement inattendus quand même à l'époque.
Exactement. Ces révolutions des Tunisiens, des Égyptiens, ne pouvaient pas fonctionner sans service après-vente. Le service après-vente, c'est la politique américaine au sens large, avec ses sous-traitants qataris, qui ont fait que ces révolutions fonctionnent. Mais quand on voit, tout d'abord, la Tunisie, la révolution a marché parce qu'un coup d'État a échoué, et en Égypte, c'est un lâchage de Moubarak, et les Américains se sont rattrapés, c'est-à-dire quand il y avait le président Morsi, qui était certes frère musulman, qui a été élu, et quand il a été débarqué d'une manière militaire, un coup d'État, les Américains avaient applaudi. Donc il y a cette hésitation, parce que une révolution, c'est comme une guerre, il faut toujours un service après-vente. Et dans le service après-vente version américaine, la démocratie n'était pas en haut de la liste. C'était le changement.
Oui, et puis on a même souvent, après les révolutions, c'est un Français qui vous le dit, on a aussi parfois des contre-révolutions. Et donc, on a vu aussi des mouvements de balanciers qui ont été parfois extrêmement brutaux, comme effectivement en Égypte, où après un président élu au suffrage universel, eh bien, il y a eu une reprise en main du régime, et on est revenu un petit peu sur des bases qui étaient celles finalement de l'époque de Moubarak.
Oui, exactement. C'est parce que aussi bien Ben Ali que Kadhafi que Moubarak, bon, je ne parle pas de la Syrie, c'est plus compliqué. Ce sont des régimes qui étaient en fin de vie. Et il fallait les changer. Mais on n'a pas vraiment prévu le coup d'après. Les changer par quoi? On a dit par la démocratie. On a dit au grand public par la démocratie. Sachant que la démocratie, c'est une évolution darwinienne. Ça nécessite du temps. Et là, on a fait la démocratie comme si c'était le maïs transgénique, rapidement.
Sans transition.
Et on voit très bien que ça n'a pas tenu.
Alors c'est ce que dit Ratar Aboudiab, hein. Il dit qu'il y avait un déficit de culture politique, d'une part, de culture démocratique, pour être précis, et pour lui, le déficit aussi de citoyenneté. Et parfois aussi, il le disait comme ça, l'intrusion de la religion dans le domaine du politique, ce sont des cocktails qui ne pouvaient pas mener à l'ancrage de la démocratie, notamment en Égypte, puisque il précise effectivement que la Tunisie était un tout petit peu mieux préparée à cette expérience démocratique.
Hormis la religion. Ça ne nous a pas échappé dans tous les pays concernés, Tunisie, Libye, Égypte, Syrie, le Yémen, et j'en passe, il n'y avait pas d'opposition représentative. Ce sont des régimes qui ont confectionné des oppositions professionnelles, sauf Kadhafi qui n'acceptait aucune opposition,
oui.
Fut-elle à sa botte. Mais pour les autres, ils avaient des oppositions professionnelles. Juste, c'était de la cosmétique. Donc, bien sûr, cela dénote l'absence d'une culture politique, et cela prendra du temps. On voit déjà l'expérience qui n'est pas réussie, mais qui n'est pas un fiasco non plus, c'est la Tunisie. C'est là où ça a tendance, sauf qu'en Tunisie, bien sûr, il y a le paramètre économique qui a été ignoré, et là, la Tunisie paye le prix. Et à partir de cela, en l'absence d'une opposition représentative. Le problème, c'est que les seules oppositions qui avaient une assise populaire étaient, elles le sont toujours, assises sur un pilier religieux. Et c'est ça ce que craignent les États-Unis, l'Occident en général, et ce que craignent une partie des citoyens. Cependant, la citoyenneté, il n'y a pas de mode d'emploi pour créer la citoyenneté. Ça vient avec le temps, tout d'abord. Il faudrait enlever toutes ces règles de la Constitution qui sont liberticides. Et on voit en Égypte, il y en a pas mal. Donc en Égypte, ce n'est pas une expérience qui a réussi. Mais ce n'est pas grave, dit-on, pense-t-on. Et les autres pays qui ont échappé au printemps arabe, je parle des autres républiques, il y a l'Irak qui est un cas particulier, il y a le Liban, on voit le résultat, et il y a l'Algérie qui a eu son sursaut, c'est parce que le sursaut algérien, ce qu'on appelle le Hirak, était moyennement spontané, mais il était provoqué par des forces algériennes. C'est pour ça qu'il a pu s'inscrire dans une démarche un peu nationale.
Oui, c'est ce que dit Ratar Aboudiab. Il dit en réalité, ces mouvements populaires, plus ou moins spontanés, ne sont pas finies. Pour lui, on est dans un processus qui est un processus long, et les déstabilisations, les mouvements, l'appel aussi à moins de répression, à moins de corruption, à plus de démocratie, même s'il faut parfois mettre un peu des guillemets, c'est un mouvement qui vient de loin et qui va se poursuivre, et parfois à retardement, comme en Algérie.
Oui, c'est un mouvement qui va se poursuivre, mais qui va s'installer dans la durée, et on verra le fruit de ce mouvement dans un certain nombre d'années. Je ne saurais dire que ça prendrait 10 ans ou une génération, je n'en sais rien. Sauf qu'en Libye, on sait que ça prendra plus longtemps, et en Syrie non plus. Mais à partir de là où nous avons affaire à des régimes qui ont fabriqué involontairement de l'islam politique, plus ou moins involontairement, de l'islam politique. Et à partir du moment quand, comme en Égypte, les gens s'expriment librement, on a l'islam politique qui domine. Et ce n'est pas politiquement correct. Donc ça aboutit à un échec. Est-ce que nous sommes rentrés dans un cycle infernal, c'est-à-dire liberté plus ou moins absolue, élection libre et résurrection de l'islam politique, ou alors l'islam politique qui a ressurgi en Libye et qui est en filigrane en Tunisie, va-t-il disparaître? J'en suis pas sûr. Donc, il faudrait observer les séries longues, et 10 ans dans un processus historique, c'est très court.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, Rata Aboudiab nous disait que finalement, pour que ces expériences démocratiques puissent aboutir, il faudrait probablement qu'on ait une évolution des partis islamistes qui deviendraient des partis islamistes démocrates et qui accepteraient de ne pas utiliser la démocratie pour tuer la démocratie. Sans cela, il dit, on peut être encore dans une situation de blocage pendant longtemps dans un certain nombre de pays.
Certes, mais ce n'est pas uniquement que dans le discours des islamistes pour qu'ils soient démocratiquement fréquentables. C'est les islamistes, quand ils font la surenchère, ils sont entendus pourquoi? C'est l'échec de l'économie. Et dans tous ces pays, l'économie productive a échoué. Quand on voit en Tunisie, on a fait la constituante. Ils ont parlé pendant 2 années et demie d'article 1, d'article 2 et de texte. Mmh. Pendant 2 ans et demi, on a oublié l'économie. Et là, la Tunisie paye le prix. Bien sûr, à cela s'ajoute la crise sanitaire qui
aggrave la crise économique, puisque le tourisme qui aurait pu renaître et qui revenait petit à petit, c'est à nouveau tari brutalement en raison de la crise du Covid.
Voilà, mais la crise sanitaire aggrave. Mais avant la crise sanitaire, personne ne s'est vraiment intéressé à l'économie. Aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, pour eux, l'économie, c'est avoir de la dette qu'on espère ne pas rembourser et avoir les aides des monarchies golfiotes. Ouais. Pour eux, c'est ça l'économie.
Oui, ça ne construit pas un appareil productif et ça ne permet pas de générer des richesses durables.
Voilà, ça ne construit pas. Parce qu'une économie qui est basée sur la dette et sur les aides, ce n'est pas un modèle économique viable.
Alors, on a aussi, il y a eu effectivement, on en a parlé tout à l'heure, le Irak en Algérie, mais beaucoup plus tard finalement, c'est une conséquence lointaine. Et puis, il y a aussi quelques pays, pas énormément, mais qui semblent pour l'instant préservés de ces mouvements. On pense notamment au Maroc, à la monarchie marocaine, qui, en apparence, peut-être vous allez nous le dire, mais a trouvé un modèle qui, pour l'instant, semble à l'abri de ces soubresauts.
Surtout, le Maroc pense s'être mis à l'abri de ce soubresaut en s'achetant une assurance vie qui repose sur les relations avec Israël.
Oui, qui est un facteur qui vient de faire irruption de manière extraordinairement visible entre les monarchies du Golfe et le Maroc.
Oui, ce sont des monarchies, pas uniquement les monarchies d'autres pays, qui se sont achetées des assurances vie. Et on voit, il y a un autre pays qui est passé sous les radars, c'est le Soudan.
Oui, qui est moins sous les feux des projecteurs.
Il est moins, mais c'est le Soudan qui a commencé le premier
déjà dans le secret à faire la course vers Israël. Donc aujourd'hui, cette course vers Israël s'est concrétisée par l'achat d'une assurance vie.
Mais est-ce que c'est vraiment une stratégie durable ou est-ce que c'est conjoncturel parce que la situation économique, la crise sanitaire fragilise peut-être ces régimes ou est-ce que on s'installe dans une autre diplomatie et dans un autre mode de relation durable entre ces pays?
Oui, on s'installe dans des relations internationales différentes. C'est parce que comme les pays africains avant ne peuvent plus faire appel à la protection militaire pure et dure dont a bénéficié Mobutu au Zaïre et autres, maintenant les relations internationales pensant protègent de ces soubresauts. C'est ça qui a changé. Ce sont ces relations internationales qui ont modifié. Avant, on s'achetait la paix par faire un traité d'amitié ou un traité militaire. Et maintenant, c'est différent. Ce qui montre qu'à moyen long terme, les pays qui vont jouer un rôle dans la région du monde arabo-musulman, tout d'abord dans le monde arabe, vont être les trois pays non-arabes qui vont avoir leur mot à dire.
La Turquie
et l'Iran. L'Iran reviendra d'une manière, d'abord l'Iran est présente dans l'équation irakienne d'une manière très vive, l'Iran est présente dans l'équation libanaise, l'Iran est présente dans l'équation syrienne et yéménite. C'est déjà pas mal. Bon, je n'ai pas voulu inclure l'Afghanistan avec qui l'Iran a des longues frontières. Donc, cette tendance, c'est pour ça que le changement sera de plus en plus perceptible au niveau des relations internationales. Il y a le rôle de la Turquie, l'agitation turque est visible. Il y a Israël qui est dans le rôle de la force tranquille. Et il y a l'outsider, l'Iran, qui va d'une manière ou d'une autre faire son apparition dans le jeu régional d'une manière un peu plus virile.
Et donc,
ces pays-là vont changer la configuration, d'une part, du rapport politique avec l'islam, et je ne crois pas que ça va changer dans le bon sens en ce qui concerne l'Iran et la Turquie, et ils vont changer, c'est-à-dire on se fixe sur les relations internationales et on a tendance à oublier l'économie qui a été longtemps ignorée. Je parle de l'Algérie que je connais un peu, où on a confondu dépenses et investissements. Donc, en Algérie, l'économie a été mal abordée. En Tunisie, un peu ignorée. En Égypte, elle repose sur un modèle qui n'est pas viable. Mais si on ne commence pas, bien sûr, le Maroc aussi, bon, ce qui fausse la projection aujourd'hui, c'est la crise sanitaire qui fausse la projection. On ne sait pas à quel moment il y aura une reprise mondiale. Ce sont des pays qui ne peuvent vivre qu'à travers une reprise mondiale parce qu'elles sont trop dépendantes de l'économie internationale.
Et des échanges, et donc, de la reprise des échanges avec tous les pays qui les entourent. Naoufel Brahimi El-Mili, merci pour avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue, que vous êtes spécialiste du Proche du Moyen-Orient, auteur de nombreux ouvrages sur le printemps arabe d'ailleurs, mais aussi sur l'Algérie. Et sur cette région qui nous intéresse, c'était l'émission « Et si on en parlait ?» consacrée aux 10 ans après les printemps arabes. Où en sommes-nous? Et on voit à travers cette intervention que le paysage géopolitique et politique de cette région en quelques années a été bouleversé et ce n'est pas encore stabilisé. Ça nous permettra d'en reparler sur Radio Orient. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.